Marcos Veil, pour ce que vous appelez ces règles de l'art en matière d'urbanisme durable. Alors, c'est vrai que ça a l'air magnifique, hein, sur le papier, ça a l'air beau en photo, mais pourquoi parfois ça bloque? Pourquoi il y a encore des problèmes? Pourquoi il y a un différentiel entre les idées et leur concrétisation? C'est en ça que j'appelle justement les différents autres invités de cette table ronde pour en discuter et en débattre avec vous. Donc, nous avons, venez seulement, Catherine Moulin-Roth. Vous pouvez passer devant aussi, monsieur Veil. Donc, je fais deux choses en même temps, c'est pas toujours simple. Donc, Catherine Moulin-Roth, qui est responsable du domaine promotion santé du canton du Valais. Pascal Esliguer, qui est chef du service du secteur, pardon, prévention et promotion de la santé à la DGS, donc Direction Générale de la Santé du canton de Genève. Olivier Dupéret, responsable de l'unité de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire du canton de Vaud et chargé d'enseignement à l'Institut de santé globale de l'Université de Genève. Et finalement, Marcos Veil, que l'on a entendu, hein, donc urbaniste paysagiste, responsable de la succursale genevoise d'Urbaplan, spécialiste donc d'aménagement urbain dit durable. Donc, pour commencer, peut-être, ça m'intéresserait d'avoir, vous, un peu la description de votre travail et comment ce travail peut résonner avec ce que l'on vient d'entendre et voir. Catherine ?
Oui, alors, bonjour à tous. Moi, je suis, parmi mes fonctions aussi, responsable du Centre Alimentation et Mouvement. Et dans le cadre de notre plan d'action cantonal, nous devons développer des mesures qui sont orientées à la fois sur les individus et à la fois sur les environnements, les lieux de vie des individus. Et très vite, nous nous sommes aperçus qu'on a essayé d'agir au niveau de la qualité de vie dans les crèches, dans les écoles, dans les entreprises. Puis on s'est dit qu'un autre lieu de vie important des citoyens, c'est les communes. Et nous avons créé un programme qui s'appelle Commune en Santé, qui a un label un peu plus marketing, qui nécessite en fait un état des lieux de la part des municipaux sur les mesures qu'ils mettent en place pour le bien-être des citoyens, que l'on a catégorisé dans 6 domaines. Et en fonction de ces 6 domaines d'activité, ça leur laisse prétendre, en fonction du nombre de mesures annoncées, à un label de 1, 2 ou 3 écoles. Mais c'est un label, plutôt un label, c'est une démarche participative, c'est une démarche qui nécessite un accompagnement, des suggestions. Et voilà, donc nous on a très vite compris qu'en fait on pouvait agir à la fois sur l'individu, mais on pouvait aussi agir sur les conditions cadres qui permettent aux individus d'adopter des attitudes en matière de promotion de la santé.
Et en matière de règles de l'art comme celles que l'on a entendues dans le canton du Valais, en Valais, où on est en...
Alors c'est très variable, il y a des communes qui ont bien compris l'enjeu et les bénéfices qu'on peut avoir des aménagements urbains favorables, incitatifs à adopter des saines habitudes de vie. Et dans certaines communes, c'est un petit peu plus laborieux. On a les bons et les mauvais exemples qui se côtoient. On essaye de valoriser les bonnes pratiques, les bons exemples. On a des communes, en tout cas, comme la capitale, par exemple, je pense qu'il fait quand même assez bon élève en matière d'urbanisme.
Merci. Peut-être juste la première chose, moi j'ai été très touché parce que je suis pédiatre au départ et je pense que la place de l'enfant, elle est fondamentale et qu'on a une responsabilité en tant qu'adulte, à la fois citoyen et professionnel, parfois parents aussi, mais pas forcément, de les protéger. Et je pense que là, on a un levier qui s'appelle les droits de l'enfant, que la ville de Genève notamment a beaucoup utilisé pour faire vivre, faire revivre et identifier par exemple dans les quartiers les points noirs, parce que augmenter la mobilité en ville, augmenter la marche à pied, augmenter le vélo, c'est malheureusement aussi augmenter les accidents. Et là, on a un devoir de protection en aménageant le territoire et en s'assurant qu'il puisse être protégé, par exemple, en portant des casques à vélo, y compris sur les nouveaux engins de mobilité. Sur l'autre élément qui m'a beaucoup touché dans votre intervention, c'est l'interdisciplinarité, le fait de se parler entre professionnels, parce que c'est mon quotidien dans le cadre de l'unité de promotion de la santé et de prévention au milieu scolaire du canton de Vaud, l'équivalent du service santé de l'enfance et de la jeunesse de Genève, où on travaille avec des professionnels qui viennent de mondes différents. Et ce qui prend le plus de temps, c'est de se mettre d'accord sur le vocabulaire. Et je me réjouis de l'échange, parce que développement durable, je vous assure, on ne met pas la même chose derrière.
Bonjour à tout le monde, je m'appelle Pascal Figuette, donc le chef du secteur de la prévention et promotion de la santé à la Direction générale de la santé à Genève. Donc en gros, et on simplifie, responsable en fait de proposer, de piloter, de mettre en œuvre la politique cantonale en matière de promotion de la santé et de prévention des atteintes à la santé. Je voudrais remercier M. Val pour sa présentation intéressante que j'avais déjà eu la chance d'écouter le 9 février, mais qui me parle toujours autant. Il y a beaucoup d'éléments qui sont très parlants pour nous, on y reviendra clairement tout à l'heure. Ce qui est intéressant pour moi, c'est que plusieurs des éléments présentés s'alignent vraiment sur notre volonté au niveau du canton de repenser notre politique cantonale de promotion de la santé. Et nous nous sommes lancés il y a à peu près 2 ans à l'initiative du Conseil d'État dans une révision de notre approche de promotion de la santé. Et les orientations qui ont été déjà prises au jour d'aujourd'hui, dont j'aurai le plaisir de vous en parler tout à l'heure, s'alignent vraiment sur les souhaits et les rêves. Alors ça aligne autant que possible, hein, parce que on n'arrive pas à être parfait non plus, mais ça aligne autant que possible sur les priorités présentées à l'instant par M. Weil. J'ai le micro, j'ai quand même une toute petite interpellation par rapport à la présentation qui a été faite là. C'est que moi j'habite à Genève dans une cité qui était construite dans les années 70, la cité des Avanchets, qui est un quartier qui regroupe à peu près 6000 personnes. Qui sont des barres d'immeubles extrêmement moches à titre personnel, mais par contre il y a un très grand avantage, c'est que c'est à mes yeux tout à fait construit à la manière que suggère M. Weil aujourd'hui, avec des immeubles qui sont d'un côté réservés aux voitures et de l'autre côté réservés à des zones vertes, zones piétonnes, zones de jeu. Et en fait cette zone verte représente une énorme le centre de cette cité. Et sur cette zone verte, il y a des stades de foot, il y a des places de jeu, il y a un centre commercial avec une pharmacie, il y a un centre médical, il y a un centre pour personnes âgées, un EMS, etc. Et pour moi, qui ai 2 enfants là-bas, il y a 2 crèches aussi, il y a des écoles. Moi, je n'utilise plus ma voiture depuis que j'y arrive, depuis que j'y travaille, et il y a une qualité de vie qui est remarquable. Alors la question que j'aimerais plus y répondre, à un moment ou à un autre, c'est si on arrive à le faire il y a 40 ans, pourquoi est-ce qu'on doit encore en parler aujourd'hui et pourquoi est-ce qu'on fait faux aujourd'hui? C'est vraiment une question légitime de ma part. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé vu qu'on avait déjà cette connaissance et cette compréhension il y a 40 ans?
On peut justement aborder ça. Hein, est-ce que ces deux analyses sont aujourd'hui en concurrence ou véritablement est-ce de la complémentarité aussi aujourd'hui? On a l'impression qu'on est quand même encore dans une optique de concurrence entre ces deux domaines, santé individuelle et santé globale, si l'on peut l'appeler comme ça. Mm-hmm. J'ose juste demander où est le deuxième micro, elle est là-bas, c'est un peu plus simple. Et après, n'hésitez pas si vous avez des questions, levez la main, pour moi le micro. Oui,
merci. Effectivement, je vais répondre de manière précise à votre question, parce qu'elle soulève d'autres interrogations, et j'ai beaucoup travaillé sur le quartier des Avanchets, notamment. Mais sur la question, effectivement, de la santé individuelle, santé collective, moi ce que je constate, je participe à de très nombreux colloques de médecins, c'est que les médecins ils viennent nous voir parce que les maladies auxquelles ils sont confrontés, ils voient que les causes, enfin les solutions ne vont pas les trouver dans les cabinets des médecins, elles sont extérieures, elles sont dans l'environnement. Donc ils viennent finalement chercher de l'aide de tous ceux qui sont là pour produire la ville. Et donc il y a vraiment, on n'est plus dans cette distinction entre santé individuelle et santé collective parce que c'est vraiment le passage de l'un à l'autre en agissant sur l'environnement. Ça m'intéresse de vous entendre dire que l'exemple des Avanchets est un bon exemple. Moi, je ne le considère pas forcément comme un très bon exemple parce qu'on a là une séparation globale, totale, entre le trafic motorisé et le trafic piéton. En fait, les voitures elles sont sous terre et puis les piétons sont en terre. Le problème, c'est que l'automobiliste, quand il sort de sa voiture, il devient un piéton. Et il n'a aucun cheminement, aucun trottoir sur les routes existantes pour rejoindre le niveau supérieur. Donc ça fait 15 ans à peu près qu'on se bat pour que les propriétaires de ces routes, qui n'est pas la commune, puissent aménager des trottoirs pour permettre aux piétons de rejoindre. Alors une fois qu'on est sur le niveau supérieur, au niveau du piéton, évidemment, c'est très sécurisé comme espace, c'est très agréable, on dispose de tous les équipements, services, espaces de loisirs, et ça fonctionne très très bien. Mais la séparation absolue, je ne suis pas sûr que ce soit ce que je recommanderais. J'irais plutôt vers la cohabitation. Je suis plutôt pour ces zones de rencontre qui permettent la cohabitation automobilistes, piétons, cyclistes, parce que finalement on est tous usagers à un moment ou à un autre, on a besoin d'une voiture, d'un vélo, d'une moto, d'être piéton. Donc, l'exclusion crée plutôt, à mon avis, de la ségrégation et puis pose ensuite des problèmes quand il faut que les uns se, enfin, que les gens se rejoignent, que les différents modes de déplacement se rejoignent.
Nous avons justement trois représentants de trois cantons quand même très différents, entre le Valais d'un côté et Genève de l'autre, vous entre deux. Justement,
c'est le jambon. Si, là, c'est bon, je ne suis pas mis là pour rien. Non.
Géographiquement parlant, c'est entre eux. À votre niveau, c'est vrai que vous le voyez comment aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une complémentarité entre cette santé individuelle et cette santé collective, voire même, je dirais, environnementale? Ou est-ce qu'il y a vraiment encore des zones de friction avec passablement de concurrence, avec chacun peut-être dans sa tour d'ivoire, ou est-ce qu'on est vraiment en train d'aller vers le progrès à ce niveau-là? Monsieur Duberret, je ne sais pas.
Alors, moi je fais le constat qu'on est plutôt dans un environnement de silos verticaux, et je vis ça au quotidien, et tant que les gens des étages en dessus arrivent à se parler et nous laisse travailler, ça va bien. Mais quand on est en phase de contraction, comme c'est le cas de nos sociétés à l'heure actuelle, chacun se replie un peu chez soi. Et on est malheureusement dans un environnement où les collaborations sont souhaitées, parce qu'il y a une prise de conscience au plan politique qu'il faut le faire, à tous les échelons, mais que dans la réalité des moyens mis à disposition, notamment en temps, parce que ça prend du temps, et puis toutes ces réunions, en fait, vous faites quoi, vous ne produisez pas, c'est un petit peu le discours raccourci et caricatural, mais c'est quand même ce qu'on entend, rend les réelles collaborations pas si faciles que ça. Maintenant, elles sont indispensables. Du point de vue de la santé publique, on est dans un courant très nord-américain et qui veut sur-responsabiliser l'individu dans son comportement. Et je pense que les obligations en Angleterre, hein, vous les adoptez, il faut maigrir d'abord, et c'est votre responsabilité, montrent bien que l'emphase est mise sur le comportement individuel. Et tout ce qui nous est demandé régulièrement par le politique sur la consommation d'alcool, la consommation des drogues, l'activité physique, l'alimentation, est centré sur la réflexion qu'on comprend, parce qu'elle est historique, c'est « ah, mais ils ne savent pas ». Donc il fallait leur dire « faut ». Aujourd'hui, ils savent. Les jeunes ont accès à l'information, les adultes aussi. Deuxièmement, ce qu'il faut, c'est pouvoir travailler sur les conditions pour faciliter le comportement favorable. Puis c'est là où ça devient difficile. Et les personnes intéressées à ça, sur la question de l'obésité, il y a un très très joli article dans le Lancet, il y a 3 ou 4 ans maintenant, je ferai circuler la référence. On voit un très beau diagramme avec un triangle. Et je vous le fais comme ça. Impact sur la santé et nombre de mesures prises sont ici. Impact sur la santé, qui sont les mesures structurelles, sont là. Et elles sont extrêmement difficiles parce qu'elles demandent un engagement, une prise de position politique. Donc la seule chose qui nous reste à faire, nous, acteurs, chacun dans nos métiers, c'est de trouver les éléments qui permettent de convaincre pourquoi il faut le faire. Et puis là, moi, je vous donne peut-être deux pistes, puis on peut y revenir après. Un, c'est trouver des exemples locaux de ce qui marche, et sensibiliser sur le seul chiffre que je vous donne aujourd'hui, c'est facteur 10. On marche 35 minutes par jour, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et 170 minutes par semaine. On fait du vélo 100 minutes par semaine. C'est 20 minutes de vélo, 10 minutes aller-retour pour aller au travail, 5 jours par semaine. Le facteur, c'est 10. Vous pouvez vous amuser à faire les calculs pour votre commune ou pour votre canton. Et puis c'est avec ces arguments-là que vous pouvez aller vers les politiques et dire, si on arrive à faire en sorte que 100% des personnes se mettent à marcher et à atteindre ce niveau-là, voilà le nombre de bords qu'on va, entre guillemets, économiser. Sur la trajectoire individuelle, ça change rien, on a 100% de décès à la fin. Mais sur la responsabilité qu'ont les politiques par rapport à la population, elle est fondamentale. Et là-dessus, je vous donne un exemple. L'autre chose, c'est d'utiliser les textes généraux qui cadrent et qui sont pour certains contraignants. Je reviens sur la Convention des droits de l'enfant, je vous rappelle, c'est un texte juridiquement contraignant qu'on utilise pas assez dans nos activités par rapport aux enfants, aux ados et aux jeunes, ça va jusqu'à 20 ans. Et puis les autres, c'est les objectifs du développement durable. Est-ce que tout le monde a entendu parler des objectifs du développement durable ? Non, je sais que c'est quasiment une insulte ici, mais... Okay. La stratégie fédérale 2016-2019, qui la connaît ? Levez la main. Mais qui l'a lu ? En entier. Ok. Là-dedans, à travers ces textes-là, celui-ci n'est pas contraignant, mais c'est des leviers et sur lesquels on doit travailler. Et vous les connaissez, puis je m'adresse à un public où c'est facile, et j'enfonce des portes ouvertes pour vous, mais je vous assure que chez moi, ça fait 2 ans que je ramène, étape par étape, ces questions-là, parce que la santé, elle est complètement impliquée dans le développement durable et dans la fusion qu'il y a eu avec les deux fondations et Éducation 21 maintenant. On va vers une absorption par Éducation 21 du réseau des écoles suisses en santé, et c'est un processus dans lequel on est heureusement associé, mais pour lequel il va falloir qu'on discute de ce qu'on évoquera après, c'est quoi le développement durable dans nos représentations respectives.
Concrètement, c'est une question de journaliste, concrètement. Dans le canton de Vaud, il y a des exemples que vous pourriez évoquer, justement, de moyens mis en place pour mieux vivre, justement, dans un canton en meilleure santé.
Je propose que la parole soit donnée à la salle, parce que vous êtes les mieux placés, encore mieux placés que moi. Moi, je peux vous donner quelques exemples que je vois depuis où je suis, mais je propose que, dans la salle, les Vaudois présents s'expriment. Ou Vaudoises, excusez-moi. Je prends le masculin, ça va pas aller. Vous connaissez là ?
Oui, c'est mieux qu'on en ait deux. Ah, vous voulez parler ? Il n'y a pas de
problème.
Bonjour, on est ravis d'être pour un cantonal Saint-Mars. Effectivement, nous, on rejoint la promotion santé vallée pour les labels communs santé, donc c'est déjà en première mesure. D'ici les prochaines années, on va développer un catalogue de mesures pour les communes qui va être mis en ligne sur notre site internet. Et puis, au niveau de canton, il y a aussi les projets sport santé qui sont en train de se développer petit à petit. Il est encore bloqué un petit peu, mais normalement, il va être lancé à juin, sauf erreur, pour vraiment financer les communes afin qu'ils puissent mettre du fitness à l'air ouvert dans leur municipalité. Donc il y a des choses qui se font, on a pris conscience que la chose est de plus en plus importante. On a fait les fameuses colloques le 9 février justement pour dire, et ça c'est déjà en action, on discute déjà à niveau collectif sur le fait qu'on est d'accord que la responsabilité individuelle est importante, l'information, et maintenant on va faire quelque chose en passant pluridisciplinaire, et donc on est sur cette voie, sensibilisation, communication, information, label communal santé pour les communes, catalogue à disposition d'ici les prochains mois, et aussi mesures structurelles dans les communes par rapport à le fitness à l'air ouvert. Ça, c'est ce que je connais de ma part, sûrement il y a d'autres choses mais que je ne connais pas.
Vous êtes pas là, vous. Et sur le canton du Valais, on sait que développement durable, écologie ne sont pas toujours des mots très politiquement corrects dans ce canton-là, sans exagérer. Est-ce que là, il y a des exemples concrets de synergie entre santé individuelle et santé collective ?
Bon, alors déjà, nous avons plus de 18 communes qui sont labellisées communes en santé, donc ça veut dire qu'ils ont fait une démarche d'inventaire, qui ont mis en place, qui se sont engagés dans 6 domaines d'action à développer des mesures concrètes pour la santé de leurs citoyens. Moi, je vois plutôt les difficultés, c'est qu'en Valais, c'est un canton où les gens voyagent beaucoup, hein, du domicile au travail. Et souvent, ça devient plus une responsabilité après au niveau du canton de créer des aménagements pour que les gens, dans leur déplacement, puissent aussi être un petit peu plus mobiles. Juste un exemple concret, au travail, on a décidé de lancer l'action Bike to Work. Au niveau de nos collaborateurs, beaucoup de collaborateurs ne travaillent pas, moi-même, je ne travaille pas sur Sion. Donc ça nécessite pour moi déjà de faire une dizaine de kilomètres à vélo, mais en Valais, je vous rassure tout de suite, ça grimpe. Donc Est-ce qu'on arrive à avoir des pistes cyclables aménagées aussi dans les vallées latérales, ce qui n'est pas le cas. Et je vous assure que de rentrer du travail à 5h30 sur une route qui monte, sur une route latérale, c'est bien plus dangereux que de prendre la voiture. Donc je pense qu'on a encore du travail à faire. À ce niveau-là, je pense qu'il y a des... On a des bonnes pratiques. Et nous, ce qu'on a décidé, c'est de valoriser, d'encourager, de visibiliser les bonnes pratiques des communes qui font l'effort de mettre sur pied des mesures. On leur donne aussi une place importante quand elles ont elles-mêmes créé des initiatives locales qui encouragent en fait les saines habitudes de vie. Alors on leur donne une place aussi médiatique parce que c'est, soyons clairs, c'est qu'un politicien il aime aussi bien être au devant de la scène. Mais je trouve qu'avec plaisir on leur donne cette place-là parce qu'en fait ces bonnes pratiques, souvent, c'est un peu par méconnaissance, je pense aussi que les gens ne savent pas qu'est-ce que concrètement ils peuvent mettre en place pour améliorer la santé des citoyens. Alors nous, dans le cadre de ce programme Commune en Santé, nous avons un catalogue, mais qui n'est pas exhaustif. On laisse la place aussi à la créativité, à la possibilité aussi des communes de développer leurs propres mesures.
Il y a des exemples que vous pouvez citer, que vous trouvez intéressants?
Oui, bien sûr. On a, par exemple, dans certaines communes se sont beaucoup intéressées à la population vieillissante, ont créé en fait des mesures qui visent plutôt à la solidarité, à l'intégration, et développé en fait un passeport senior qui permet en fait aux seniors de se rencontrer, de visiter des lieux qui sont en principe fermés au public, de bouger ensemble en toute sécurité. Et ça crée des zones de convivialité, mais peut-être à l'échelle plutôt un peu plus des seniors. Par exemple, il y a eu des aménagements urbanistiques, par exemple, je pense là à Martigny, le long des berges du Rhône, qui permettent à la population aussi, ben, ça forme un peu de fitness à ciel ouvert. Enfin, il y a des mesures, il y a des centres de loisirs itinérants, vu qu'on a des petits villages de montagne. Les communes n'ont pas toujours la possibilité d'avoir un centre de loisirs pour occuper la jeunesse. Par contre, ils ont des bus itinérants qui desservent plusieurs communes en même temps. Donc les communes, des fois, se mettent ensemble pour créer des espaces ou améliorer les possibilités en fait pour la santé de la population.
J'ai une question à Monsieur Vail. Vous avez dit le grand mot décloisonnement. Je crois que nous, le développement durable, on est les spécialistes du décloisonnement, mais on en souffre aussi. C'est qu'on n'est jamais chez nous nulle part. Hein, et quand j'écoute les spécialistes de la santé, je me dis on travaille exactement dans la même direction. J'écoute le spécialiste de l'enfance, je me dis mais oui, on a absolument les mêmes intérêts. Puis à la fin, eh ben, on construit quand même autrement. Ça veut dire que dans le fond, il y en a qui ouvrent facilement leurs portes, qui s'échangent volontiers, puis il y en a qui la ferment souvent. Et je me demande parfois, alors vous êtes ici l'urbaniste, vous n'êtes peut-être pas l'ingénieur, mais j'ai l'impression qu'il y a des professions où on aurait tout intérêt à ce qu'il y ait aussi cette envie de décloisonnement et qu'aujourd'hui, on a beaucoup de peine à la trouver. Alors, j'aimerais bien entendre si vous avez probablement cet accès aux ingénieurs, constructeurs, architectes, comment on pourrait mettre en place ce décloisonnement.
Alors c'est vrai que par ma profession d'urbaniste, qui est une pratique intégrative, où on va travailler avec des ingénieurs mobilité, ingénieurs environnement, énergie, route, etc., pour les traduire dans un projet, pour en faire la synthèse dans un projet, on a l'habitude de travailler avec différentes professions. Ça reste quand même tout dans le milieu de la construction. Et moi, ce que je demande aussi en matière de décloisonnement, c'est de travailler avec d'autres métiers, d'autres approches, des médecins, des sociologues. Des sociologues, on les intègre de plus en plus dans les études, mais pas les médecins. Et je trouve dommage, alors que justement on les entend nous dire que les causes des maladies sont des causes environnementales, ils sont très peu présents dans le débat public, dans le projet. Aujourd'hui, on parle de densification, de problèmes énergétiques. Quel est l'avis des médecins sur ces questions qui nous interpellent aujourd'hui dans le développement du projet ? Moi, je crois vraiment, et c'est la manière dont nous, on travaille, c'est vraiment de se mettre autour de la table, autour du projet, et de discuter de manière concrète, pas sur des simples abstractions, des idées, ou sur des grands principes, mais c'est de vraiment agir concrètement, et puis trouver des solutions concrètes, et qu'on puisse directement appliquer. Et réunir autour du projet, C'est vrai, vous avez dit, on fait des grandes réunions, il n'en sort pas grand-chose. Nous, on a la chance, voilà, d'être plutôt dans la production de la ville et la chance de pouvoir réunir autour de la table, quand on a les moyens de le faire, des spécialistes qui viennent de différents horizons, y compris les usagers finaux, parce que la finalité, c'est quand même des habitants, et si on peut les mettre autour de la table très en amont, ben, tant mieux, pour discuter, pour élargir le champ de compétences, parce que, en tout cas, moi, je n'ai pas la prétention de savoir ce qu'il faut faire de manière innée. Ça, c'est au travers de la discussion, de l'échange avec les différents points de vue qu'on va pouvoir faire un projet qui finalement répond au mieux, on l'espère, aux attentes des gens qui vont habiter le quartier, qui vont fréquenter la rue, etc.
Et selon votre expérience, c'est facile de concrétiser ensuite comment aujourd'hui ce genre de projet ?
Mais de nouveau, il y a beaucoup d'exemples. Hein. Quand on parle de mobilité, il peut y avoir très rapidement des clivages droite-gauche. Voilà, c'est comme ça. La question de la mobilité fait l'objet de débats politiques alors que finalement tout le monde a besoin de se déplacer et puis utilise des tas de modes de déplacement. Mais il y a quand même, je dirais, beaucoup de choses qui se font aujourd'hui. Il y a plus d'ouverture, il y a plus de décloisonnement, il y a plus d'intégration. Je le vois maintenant même au canton de Genève, voilà, la question de la santé est intégrée dans des réflexions au niveau du projet d'agglomération, au niveau d'autres politiques cantonales. On essaie de l'introduire, cette dimension santé, dans les plans directeurs communaux, c'est de manière transversale. Donc je pense qu'il y a un réel mouvement aujourd'hui. Et la santé peut-être a un caractère plus opérationnel que le développement durable, plus transversal. Le développement durable, ça reste trop souvent sur des grands principes, peut-être un peu trop abstrait. La santé, surtout quand on arrive à réunir les gens autour de la table, permet peut-être d'identifier quelles sont les mesures qu'on peut prendre. Et comme de cette manière-là, effectivement, arriver à concrétiser des projets.
Vous voulez réagir ?
Volontiers. J'aimerais aussi amener quelques éléments de réponse aussi à cette grande question du décloisonnement, des silos, vous avez mentionné, de l'approche pluridisciplinaire, etc. Enfin, je pense que c'est là aussi un des grands parallèles entre développement durable et santé, et promotion de la santé. Et j'aimerais là prendre quelques minutes pour vous expliquer un tout petit peu la démarche qui est en cours au niveau du canton de Genève, justement pour sortir de ce décloisonnement et avoir une approche vraiment multisectorielle, multidisciplinaire de la promotion de la santé. Tout d'abord, juste quelques chiffres, hein, une estimation qui a été publiée dans un document de l'Office fédéral de la santé publique qui détermine le pourcentage des facteurs d'influence sur notre santé, de quels facteurs dépend notre santé en termes de pourcentage. Et c'est des chiffres qui sont particulièrement, en tout cas la première fois que je les ai lus, qui sont étonnants. Donc notre santé dépend à peu près de prédispositions génétiques, à peu près de 25%, 20 à 30%. Notre santé dépend de notre système de soins de santé, alors là vous allez être étonné, c'est à peu près 10 à 15%. Le reste, donc à peu près 60 à 70%, c'est des déterminants environnementaux, des déterminants socio-économiques et des déterminants comportementaux. Tiens donc, c'est aussi des déterminants, ou disons les trois piliers du développement durable. Donc c'est quelque chose de... Voilà, il y a un grand parallèle entre la promotion de la santé et le développement durable, c'est qu'on travaille en grande partie sur les mêmes piliers. Maintenant, cette estimation date d'une dizaine d'années, mais tout récemment, le Conseil fédéral lui-même l'a exprimé dans sa stratégie santé 2020, que notre santé dépend à 60% de facteurs qui dépendent d'autres secteurs que celui de la santé. Que ce soit l'éducation, que ce soit la culture, que ce soit l'aménagement du territoire, que ce soit l'environnement, que ce soit la cohésion sociale, etc. Et dans leur document du Conseil fédéral, document stratégique, ils mentionnaient vraiment la nécessité d'avoir une approche multisectorielle. Et c'est là la grande difficulté, parce que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut faire du multisectoriel, il faut travailler ensemble, il faut abattre les cloisons. Après, en termes de réalisation, on connaît tous vraisemblablement beaucoup plus d'échecs que de réussites.
Non, il y a des réussites. C'est difficile.
Il y a des réussites, mais moi je connais beaucoup d'échecs en l'occurrence. Et là, j'aimerais juste vous dire un tout petit peu l'approche qui a été initiée au niveau du canton de Genève, donc à l'initiative du département en charge de la santé, notre magistrat, M. Poggia. Qui a initié un processus lancé officiellement par le Conseil d'État de réviser la politique cantonale de promotion de la santé en favorisant une approche multisectorielle qui permet d'agir sur l'ensemble des déterminants de la santé. Donc il y a 2 ans, un comité de pilotage interdépartemental dans lequel tous les départements de l'État sont représentés, que ce soit sous l'instruction publique, l'environnement, l'aménagement du territoire, etc. Et ils ont travaillé ensemble pendant maintenant à peu près 2 ans pour essayer de réfléchir ensemble à l'avenir de cette politique de promotion de la santé et de prévention. Je vous en parle parce que c'est moi qui suis le chef de projet de ce projet-là.
Et je vais vous donner des réponses concrètes. Hein. Alors, le processus n'est pas terminé, mais on commence à avoir des réponses concrètes. Donc, ce groupe de travail, ce comité de pilotage a travaillé ensemble dans un premier temps à élaborer ce qui s'est appelé un concept cantonal de promotion de la santé et de prévention 2030, donc qui vise à définir un peu des lignes directrices de ce que le canton entend par rapport à la promotion de la santé et à la prévention pour les 15 prochaines années. C'est un document qui est public en ce moment, qui n'est pas terminé, mais qui était ouvert à consultation externe à l'ensemble des partenaires de prévention et promotion de la santé du canton. J'espère que certains d'entre vous l'ont aussi reçu, parce que c'était le but. Mais peut-être pour vous dire, le point central de ce document-là, c'est les 8 axes stratégiques. Et vous verrez tout de suite, ce sont des axes stratégiques qui sont complètement multisectoriels. Je vais juste vous lire les 8 axes stratégiques. Les deux premiers vont vous parler particulièrement. Le premier axe, c'est un environnement propice à un mode de vie sain et exempt de risques pour la santé. C'est donc une vision pour le canton de Genève qui souhaite qu'à l'horizon 2030, en matière de promotion de la santé, il y ait un environnement propice à un mode de vie sain et exempt de risques pour la santé. Non seulement agir sur les risques, mais également agir sur les facteurs de protection dont vous avez bien parlé. Le deuxième axe, c'est un contexte socio-économique favorable à la santé. Chacun de ces axes sont précisés ensuite sous forme d'objectifs spécifiques que je ne vais pas vous lire là parce que ça va être trop long. Mais l'idée vraiment de ce deuxième axe, c'est d'agir sur les conditions socio-économiques, notamment cohésion sociale, notamment accessibilité à un revenu, etc. Je lis rapidement l'axe 3, une population informée sur les moyens d'agir en faveur de sa santé. Là, c'est quelque chose qui peut paraître facile à exprimer, une population informée. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que là, notre souhait, ce n'est pas une obligation. Il n'y a pas d'obligation que les personnes se comportent juste comme il faut d'après les règles officielles. C'est de donner les moyens à la population de faire des choix éclairés. Et je pense que c'est là quelque chose d'extrêmement important, autant en termes de développement durable. On travaille beaucoup avec la capacité individuelle et les ressources individuelles dans ce domaine-là. Le quatrième axe qui fera plaisir à mon voisin. Des enfants qui naissent se développent et atteignent l'âge adulte dans des conditions favorables à la santé. Avec de nouveau une volonté d'agir non seulement sur les risques, hein, que ce soit pollution de l'air, accidents, etc., mais également sur les facteurs de protection, développement de compétences sociales, développement de capacités de résilience pour faire face aux difficultés de la vie, etc. Le cinquième axe, un environnement professionnel sain. On en parle peu, en tout cas jusqu'à présent, mais le travail est peut-être source de revenus, de bien-être, de bonheur, etc., mais c'est aussi à l'heure actuelle une source de risque pour la santé extrêmement importante, hein, que ce soit physique ou psychologique. L'axe 6, qui est un axe extrêmement important par rapport au vieillissement de la population, l'axe 6 dans lequel on parle de bien-être et de qualité de vie dans le vieillissement. Vous verrez que là, il y a un choix délibéré de ne pas parler d'être en santé dans le vieillissement, parce que le vieillissement est de facto associé à une perte des capacités physiques et cognitives, et c'est plutôt une question de bien vivre le vieillissement, et de maintenir sa qualité de vie malgré le vieillissement. C'est surtout ça qu'on a mis en avant. L'axe 7, qui va être intéressant, vous parliez tout à l'heure du rôle de médecin. Et moi, j'aimerais juste vous dire peut-être de différencier un médecin d'un spécialiste de santé publique. Parce que là, voilà, moi, je pense qu'en termes de promotion de la santé, c'est en premier lieu un spécialiste de santé publique qui va avoir un rôle à jouer, même si le médecin a aussi un rôle important. Et c'est la raison pour laquelle l'axe 7 s'appelle un système de santé performant en matière de promotion de la santé et de prévention. Donc le souhait également, de nouveau pour le canton de Genève, qu'à l'horizon 2030, le système de santé, les médecins agissent aussi en termes de prévention, de promotion de la santé. Et le dernier axe, un cadre légal et réglementaire favorable à la santé. Donc s'assurer qu'il y ait des bases légales qui soient adéquates et qui soient solides pour notamment permettre les mesures de prévention structurelle dont vous avez parlé tout à l'heure.
Alors, oui. J'entends un peu ces lignes directrices, je les trouve aussi très belles, et puis, mais je pense que vous êtes effectivement des gens éclairés. Nous sommes dans une salle de personnes particulièrement éclairées à ces problèmes. Pour parler de ce point 3, est-ce que vous avez l'impression, c'est vrai que le public ignore, et c'est une question qui m'interpelle aussi professionnellement, ignore cette intrication entre santé individuelle, collective, que la pollution de l'air aujourd'hui a un impact aussi important sur la santé que le tabac, par exemple, que cause autant de morts et que c'est important de lutter contre le tabac peut-être, mais également contre la pollution de l'air. Est-ce qu'il y a une ignorance de la part du public? Est-ce que ça explique peut-être aussi pourquoi, en tout cas au niveau de la volonté individuelle, ça peine à dépasser le procès d'intention?
Non, je ne vais pas monopoliser la parole, mais je vais donner quelques éléments de base de réponse. À mon avis, là, la grande question, c'est que la population n'est pas homogène. Il y a bien sûr un certain nombre de personnes dont vous, assurément, qui êtes au courant qu'il ne faut pas fumer, qu'il ne faut pas manger des chips, pas manger trop sucré. Mais la grande problématique de la plupart des pays, et notamment du canton de Genève, c'est la question des inégalités sociales de santé. qui font que si une tranche de population qui est au courant, la plupart du temps, les tranches qu'on appellerait les plus à risque, les plus précarisées, vulnérables, on peut choisir les termes qu'on veut, ne sont pas forcément au courant du comportement qu'ils pourraient adopter pour favoriser sa propre santé ou la santé de ses enfants. Il n'y a qu'à voir dans la rue, moi je vois encore régulièrement des gens qui fument dans leur voiture avec leur enfant à l'arrière. Il y a des mères qui, quand ils vont chercher leur enfant à la crèche, leur balance un paquet de chips et des Kinder Bueno. Là, clairement, alors soit il y a vraiment un manque de connaissances, que je pense dans certains cas, soit il y a peut-être un manque d'intérêt à essayer de changer les choses. Et c'est là peut-être le rôle de chacun d'entre nous de ne pas forcément imposer, mais de en tout cas encourager à améliorer cette connaissance et ce savoir à tous les niveaux, en gardant à l'esprit que la société est multifactorielle, multiculturelle, surtout à Genève, avec des déterminants sociaux qui sont particuliers et qui doivent être pris en compte en termes de promotion de la santé et de prévention.
On passe à un autre sujet. Moi, j'aurais une question à nos trois acteurs là de la santé qui doivent répondre en fait à l'ensemble de la salle, une bonne partie de la salle, qui sont des professionnels du développement durable. Je dirais le titre, c'est « Développement durable et santé, quelle synergie ?» Alors si maintenant, la question serait de dire, mais quels sont les ponts, quels sont les moyens que vous, acteurs, je dirais principalement dans le domaine de la santé ou de la promotion de la santé, vous pouvez lancer aux professionnels qui sont ici dans la salle pour dire comment on peut mieux travailler ensemble, comment on peut créer des alliances, mettre nos forces et nos moyens, parce qu'on sait qu'on en a peu de part et d'autre, pour qu'évidemment on fasse mieux dans nos thématiques respectives.
Alors moi, j'aimerais juste donner une expérience qui s'est faite en Valais, c'est qu'il y a, dans certaines grandes villes, il y a une commission de la jeunesse qui se réunit et qui réunit tous les acteurs du champ de la promotion de la santé pour réfléchir ensemble à des thématiques sur l'insécurité. Et notamment, on a mis sur pied un projet en se disant, mais moi, mon dada, c'est les places de jeu, parce que je me dis que c'est important pour les ados qu'on crée des places de jeu conviviales. On crée souvent des choses très bitumées pour les ados, alors que si on regarde les étudiants, dès qu'ils voient deux brins d'herbe par terre, ils aimeraient se vautrer dedans. Et puis, je me dis, mais les parcs, d'ailleurs, en ville, qui sont très prisés, sont souvent les parcs qui comportent des zones de verdure. Et puis, on se disait, mais notre problème, les jeunes ne consomment trop de boissons sucrées. Puis on s'est dit, mais avec les services industriels de la ville, on est en train d'étudier pour rendre que chaque parc ait un accès à l'eau potable gratuite, mais qui soit aussi écologiquement compatible, c'est-à-dire qu'ils ne perdent pas non plus trop d'eau. Donc on est en train d'étudier pour que tous les parcs publics de cette ville soient rendus accessibles avec de l'eau courante. Mais tout ça, ça a pu se faire uniquement parce qu'il y a eu, à un moment donné, on a réuni autour de la table différents acteurs, à la fois de la promotion de la santé, de la sécurité, de l'enseignement, etc., où on a réfléchi ensemble à des mesures concrètes qui pourraient améliorer la sécurité et aussi l'utilisation de ces espaces-là. Et je vous cache pas que on n'est pas dans le monde des bisounours. Hein. L'espace public, ces trucs-là, ils sont très convoités par les jeunes, mais le samedi matin, les voisins ne sont pas très contents quand ils voient l'état dans lequel les jeunes laissent ces parcs publics. Donc en fait, on doit réfléchir constamment à comment est-ce qu'on peut améliorer cette cohabitation. Mais je pense que la seule clé qu'on a, c'est de se mettre ensemble pour réfléchir ensemble à des solutions un peu concrètes, mais on n'a pas encore trouvé la clé.
Mais pour répondre à sa question, prenons l'exemple par exemple de la pollution de l'air. On sait que la pollution de l'air cause des milliers de décès prématurés en Suisse chaque année. C'est évidemment un grand problème environnemental. Est-ce qu'il y a des pistes de convergence entre les acteurs du service du développement durable et des services de promotion de la santé pour peut-être, voilà, à la fois les gens respirent un air qui est meilleur et que la pollution de l'air soit moins impactante sur l'environnement, inversement.
Il y a des velléités, en tout cas, de rapprochement entre différents organismes. Je pense qu'on réfléchit des fois ensemble avec le développement durable, mais c'est plutôt sur des actions un peu ponctuelles, concrètes, pour essayer de sensibiliser Là, on fait une course qui s'appelle la solidaire, par exemple, qui rend, où on peut communiquer un petit peu sur les risques des maladies pulmonaires auprès de la population. C'est une course qui a lieu chaque année. Mais voilà, c'est des actions, c'est des mesures qui ne sont pas très spectaculaires.
On est au niveau de la communication.
On est au niveau de la communication.
Alors, pour donner peut-être quelques pistes, ça va dépendre, je m'excuse, mais bon, on est obligé de dire ça dépend. Je pense qu'il faut y aller peut-être par thématique. Il y a des éléments d'action qui sont au niveau local. Je vais prendre un exemple. Autour de l'alimentation équilibrée à l'école, on peut faire des actions qui visent à tisser du réseau social, du climat dans l'école, avec des activités, par exemple, petit déjeuner. Mais on peut faire aussi des actions qui impliquent la vie locale. Un exemple, le marchand d'une grande surface commerciale, dont je tairai le nom, était embêté puisque c'était l'envahissement par les élèves qui sortaient à midi, qui mettaient le chenil dans les étalages. Ils ont fait un projet conjoint avec quelques enseignants, infirmières scolaires, la déléguée à la promotion de la santé de l'établissement, pour faire une visite et profiter de parler du respect de l'environnement autour de l'école, parce que finalement c'est leur environnement aussi, de parler un tout petit peu de, au passage, quelques conseils, comment ne pas manger que les frites, ou en fait on a le choix, mais pas forcément. Et puis je vais en donner un autre, où là vous avez des actions concrètes que vous pouvez faire au niveau local. Sur Genève, il y a des semaines, dans un certain nombre d'établissements, où non seulement il y a les repas fourchettes vertes que vous connaissez dans les restaurants, il y en a dans les cantines scolaires, ça s'appelle fourchette verte junior, et puis vous connaissez qu'il y a aussi pour les crèches, fourchette verte pour les tout-petits, au cas où c'est des mesures simples, où on peut accompagner, on peut investir avec le privé aussi, hein, les entreprises parfois privées qui le font. En faisant un subventionnement et en baissant l'assiette de 2 francs, ça augmente le nombre d'assiettes demandées. Parce que le raisonnement de l'ado, il est assez simple. Il a 10 francs en poche, puis il faut gérer un certain nombre de choses, dont les applications, les champs, peut-être la sortie du week-end, le paquet
de cigarettes.
Non,
de chewing-gum.
Non, de chewing-gum. On revient peut-être sur le tabac après, parce que les gens... pas forcément le choix, et c'est parfois le seul espace des libertés qui reste à certaines populations. Une enquête auprès des femmes enceintes avait démontré ça, qu'il y avait un sous-groupe qui, malgré le programme de prévention, augmentait la consommation. Ils ont dit, c'est tellement étonnant, on fait de la prévention, puis on fait l'effet contraire au secours. Ils ont fait une enquête qualitative, et en fait, les femmes disaient, mais c'est le seul espace de liberté de ma journée. Tout le reste, c'est des contraintes. Donc, on doit se méfier aussi de finalement, un certain nombre d'a priori qu'on a parfois ou qu'on développe. Et ce n'est pas juste le manque d'infos, mais le manque d'accès. Et ici, l'argent, sur un exemple concret, on a regardé pour le canton de Vaud, il faudrait 1 million par année, on nous a tué le projet avant même de pouvoir aller le présenter à l'étage en dessus. Mais par contre, comme en tout cas dans le canton de Vaud, ça dépend des communes, le repas de midi, il y a peut-être des actions et des pistes où vous pouvez faire des actions 2 semaines, 3 semaines par année, c'est un autre exemple. Et puis, alors je voudrais dire, ce qu'il faut, c'est travailler sur identifier les interlocuteurs et les lieux où il y a de l'inter. Et dans le canton de Vaud, il y a quelque chose qui s'appelle les conseils d'établissement qui réunissent le directeur, un certain nombre de membres de l'école, dont l'infirmière scolaire, un doyen, etc., qui réunit les autorités politiques, en général la municipale en charge de l'école, et puis la société civile. On y a des représentants des églises, on y a des représentants des commerçants, etc. Alors, il y a des endroits ça marche, il y a des endroits ça marche moins bien. Mais c'est typiquement un endroit où quand on fait une action de prévention dans un établissement scolaire sur la consommation de l'alcool ou des cigarettes qu'on évoquait là, ça ne sert à rien qu'on fasse ça juste en temps scolaire et puis sur le périmètre de l'école, parce qu'en plus, ils fument à l'arrêt de bus, donc ils s'en occupent, etc. Et nous, on invite et on incite les établissements dans l'accompagnement qu'on leur offre à créer une synergie avec la commune sur ce domaine-là. Et puis, comme j'ai vu Soali Latrèche tout à l'heure, peut-être qu'à la Chaux-de-Fonds, tu as un exemple ou deux aussi à partager avec le reste de la salle.
Je savais que tu allais m'interpeller. Bon, je mets dans le vidéo. Je crois qu'il n'y a pas de problème.
Alors, je pense que, en ville de Chauffe-Fond, on a un conseil.
C'est intéressant que chacun se présente aussi, peut-être très rapidement.
Oui, excusez-moi. Qui... Donc, sur la traite, je suis médecin, responsable de la santé, promotion de la santé de la ville de Chauffe-Fond. Et puis, qu'est-ce que je peux dire? Donc, la Chauffe-Fond est membre de Ville Santé OMS, donc adhère à un réseau francophone de Ville Santé qui respecte la promotion de la santé au sens large, comme dicté par l'OMS. Nous, au début, c'est vrai qu'on est parti sur des projets comme Synagé ici, mais après on a compris que pour aller de l'avant, il faut l'adhésion du politique. On avait signalé plusieurs fois, c'est lui le décideur, c'est lui qui tient la bourse. Donc on a dit, Ville Santé nous convient bien, puisqu'on a créé un groupe de travail présidé par le conseiller communal en charge de la santé, et puis plusieurs personnes qui représentent un peu les services de la ville qui sont. Qui a un attrait pour la promotion de la santé, on a le service de la jeunesse, on a le service économique de la ville, on avait l'architecte de la ville, on a, l'urbaniste en faisait partie, qui était très actif aussi, malheureusement il est parti à Saint-Igné. Et puis on a aussi la communication de la ville, puisqu'il faut communiquer. Et on est parti sur un petit groupe comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble à travers un concept, Ville Santé Wellness, qui est aussi le frère jumeau qui complète aussi, comme disait Nathalie, le. Communion santé. Et là, on a dit avant de passer à des projets, il faut vraiment que le politique y croit. C'est la première chose. S'il ne croit pas, ben, c'est foutu. S'il y croit, il n'est pas censé rester 20 ans à la commune. Peut-être le prochain législature, il part. Il va raconter la même chose au suivant. Donc, on a intégré le concept de ville santé dans le programme de législature de la ville de la Chaux-de-Fonds, déjà en 2000. Et je peux vous assurer qu'en 2016, chaque conseiller communal, qu'il soit de droite ou de gauche, on avait signé tout à l'heure, on n'a pas cette problématique de droite posture sur le plan politique, mais sur le plan de santé, tout le monde est adhère. Parce qu'on a inscrit dans le marbre, et ça, ça reste quel que soit le politique qui viendra. On a les élections dans un mois, je suis persuadé que le prochain, la prochaine, puisque l'actuel part, adhérera au projet. Ça, c'est la première des choses qui prend du temps. Qui prend du temps, et quand c'est mis sur pied, on est sûr d'avancer à long terme. Après, les projets viennent. Les projets viennent si on a des besoins, que ce soit au niveau de l'école, comme disait Olivier tout à l'heure, soit au niveau de la population. Parce qu'on couvre quand même l'ensemble de la ville, 40 000 habitants, avec sur le plan adulte, enfants, et aussi on a des petits villages envoisinants. On est à environ 5 000 enfants, c'est loin d'être comme Lausanne, parce que la ville de Lausanne, c'est l'équivalent du canton de Châtel en termes d'habitants, 170 000 ou 180 000. Et on a une vision allant de 4 ans à 77 ans en termes de santé. Qu'est-ce qu'on fait pour que l'enfant de demain soit l'adulte de demain qui aille le mieux possible? Je ne dis pas que les adultes maintenant sont moins bien, mais ils vont bien. Mais qu'est-ce qu'on fait pour améliorer un peu les choses? Et les messages qu'on transmet à des enfants, on essaie de les adapter à chaque âge. Ma collègue Julie Roy-Issy, qui est mon adjointe, qui est la responsable de la promotion de la santé, je vous donnerai la parole après, parce que c'est elle qui met en place les projets. On peut dire que avant d'avoir un thème ou un projet, en bon sens, sur le rapport 2016 de la Confédération, on va voir le monsieur l'année prochaine, la semaine prochaine, pour qu'il nous explique un peu concrètement ce qu'il veut dire. Nous allons poser la question à la population, parfois vous voulez quoi? Quel est votre intérêt? Quel est votre projet? Et on a pris effectivement les projets qui les intéressent au départ, parce qu'on peut imaginer, étudier, faire des études, ou faire des publications, etc. C'est bien pour le monde médical, le monde social, etc. Mais quand la population n'adhère pas, ça ne sert à rien, on va dépenser 15 000, 20 000, 30 000 francs pour rien. Puis on est parti sur les associations qui commencent à nous connaître, à nous contacter pour nous dire bah, le problème cancer en ville de Chaux-de-Fonds, il y a des enfants, il y a des adultes cancéreux, qu'est-ce qu'on fait? Comment on les accompagne? Comment on peut aussi les aider? Donc on est parti, Julie pourra en parler tout à l'heure. On est parti sur l'alimentation à l'école. Il y a 20 ans, moi je suis parti sur le petit déjeuner, mais après on s'est rendu compte que le petit déjeuner, on s'intègre un peu trop dans les familles. C'était Virgile qui l'a fait à Lausanne à l'époque, hein, je l'ai suivi. Et puis, avec David et Julie, on est parti sur les goûts, sur le musée paysan, sur la semaine du goût, etc. Et je crois que là, on ne heurte pas les communautés étrangères, parce que quand même, à Chaux-de-Fonds, on a une centaine de nationalités. Et si on dit, vous mangez le matin pain, je ne sais pas quoi, céréales, etc., ben, le Sri Lankais mangera autre chose, le Turc mangera autre chose, moi aussi je mangerai autre chose, et on arrivera à confédérer les gens sur un même processus, même si la base, c'est des céréales, c'est du lait, c'est des protéines. Donc, on arrive à travers les communautés aussi à cibler le mieux possible les projets qu'on mène, et aussi le politique, il gagne. Il faut savoir que le politique, c'est lui, comment il fait pour gagner, sachant que le politique, c'est la santé, promotion de la santé, c'est pas une ordonnance qu'en presque au bout de 10 jours on a guéri le virus, c'est du temps. Et le politique n'aime pas quand il n'y a pas des résultats qui viennent, mais il aime bien quand sa ville vit la santé. Ça, il faut le savoir. Quand sa ville vit la santé, ben, il vient en manifestation, qu'elle soit pour adultes, pour enfants, pour se montrer, pour discuter. Et comme disait Olivier tout à l'heure en préambule, il va voir les chiffres à présenter quand la législature arrive à sa fin pour dire, voilà, moi j'ai fait ça. On ne le fait pas pour le politique, il faut bien savoir, mais on a besoin du politique, du décideur lui-même, sans lui on n'arrivera pas. Maintenant, nous ce qu'on a essayé d'intégrer à Chaux-de-Fonds, c'est l'image de la santé par tous et avec tous. C'est-à-dire la population, mais aussi les services de la ville. S'ils sont là, c'est qu'il y a un intérêt pour eux à travailler dans la promotion de la santé, et c'est qu'ils sont capables aussi de promouvoir la santé dans le cadre de leur service. Si on parle du service de la voirie, par exemple, c'est 150 personnes. Ce sont des gens qui sont torse nus à Chaux-de-Fonds. À Chaux-de-Fonds, attend un petit peu, hein, parce qu'il est encore frais. Mais il a neigé le dimanche passé. Mais quand même, quand ils sortent dans la rue, c'est avec le temps, on a la mode des crânes rasés. Les cancers, le mélanome sur les crânes rasés, on n'en voit plus plus. Le dermatologue David nous l'a dit. Donc, ils sont sensibilisés au problème du mélanome. Parce qu'ils sont torse nus. Alors, on a un projet avec eux prochainement. Ils sont venus par eux-mêmes. Donc la santé qu'on essaie de faire à Chaux-de-Fonds, c'est à travers les services, l'intégrer par immersion et rendre sensible un peu les gens à cette problématique-là pour essayer de travailler ensemble. Je pense que...
Merci. En vous entendant, moi ça m'interpelle quand même sur un point, c'est finalement d'où vient le déclic. C'est-à-dire est-ce qu'on part du bottom to top, est-ce que ça vient effectivement du citoyen, de démarche participative, de volonté de la population de changer? Ou alors est-ce que c'est au contraire quelque chose qui doit parfois être imposé d'en haut, c'est-à-dire la politique, que les politiques prennent des décisions qui peut-être ne font pas forcément plaisir à tout le monde, mais pour que ça avance, pour qu'on aille au-delà des beaux discours, est-ce que des fois il faut l'imposer? Moi j'ai trouvé effectivement votre diapositive sur, c'est très politiquement incorrect, mais cet employé des CFF qui n'a pas été engagé à cause de son surpoids. Voilà, est-ce que ces choses-là doivent exister ou alors c'est parfaitement tabou et on parle d'un... Voilà, on essaie de promouvoir des démarches uniquement participatives. Qui doit donner des fois le déclic pour que ça change?
Mais écoutez, ça vient des deux. Je dirais que ça vient des deux, mais je pense qu'on y vient quelque chose.
Non, mais vas-y, réponds.
Non, ça vient des deux. C'est vous mentir si ça vous dit, si je vous dis ça vient que de la base, et puis la base monte, et puis on travaille sur la base, c'est pas vrai. La base monte des choses, on les travaille, on tient compte, et puis après, au niveau des politiques, il y a des directives, il y a des concepts qu'on doit respecter, on doit y aller selon les statistiques de l'Office fédéral de santé publique et bien d'autres.
Mais je reviens, bon, ça dépend de tout à l'heure. Ce qui nous choque dans l'histoire de l'employé, c'est que c'est une mesure de contrainte qui n'est juste pas adaptée. Je pense que selon la nature du problème, quand on parle de la pollution de l'air, quand on parle de l'amiante dans les bâtiments, il y a une responsabilité politique et il y a un cadre à mettre en termes de mesures structurelles. Parce que le point qu'on n'a pas abordé, c'est les conflits d'intérêts que peut avoir le politique dans un domaine. Et si on parle de, ok, le déterminant sur l'obésité qu'on peut changer, pour lequel chaque individu peut faire quelque chose, c'est la mobilité. Nous autres pouvons travailler à la faciliter, à la rendre agréable, plaisante, et puis je glisse là, le vélo pliable. Vous le pliez dans le bus, puis vous remontez vos vallées latérales, vous pouvez faire ça demain. Mais je vous montre après, ça prend 30 secondes pour déplier. Mais c'est comme ça que je fais à Lausanne, je ne fais pas tous les jours toutes les montées dans Lausanne, ce n'est pas possible. Donc c'est faciliter le transport multimodal, parce qu'il y a quand même que je le glisse à un moment donné, mais je pense qu'il y a des domaines dans lesquels il y a des éléments qui sont de l'ordre de la protection sanitaire qui doivent être prises. Et quand on parle d'une épidémie de virus, enfin, il n'y a juste personne qui questionne que tout d'un coup il faille prendre des éléments de protection de la population. La mesure la plus efficace, mais il a fallu combien ? 20 ans pour faire mettre les mesures de ceinture de sécurité et les sièges, pour les rendre obligatoires pour les enfants dans les voitures. Mais moi, je vous dis, je suis encore choqué par les centaines d'enfants qui sont morts en Suisse dans ces années-là, parce que politiquement, il était difficile de faire passer, de rendre obligatoire dans les voitures, d'attacher les enfants. D'accord ? Donc, au nom de la liberté individuelle, parce que c'est ça, dans le débat public qui arrive toujours, c'est la liberté individuelle, les choix individuels versus le common good, le bien plus général. Mais de nouveau, de qui est-ce qu'on est en train de parler et des intérêts de qui est-ce qu'on est en train de parler? L'obésité, le lobby du sucre fait un travail extraordinaire. Et quand on voit, je m'excuse du terme, mais j'en ai pas d'autre, le foutage de gueule de l'industrie agroalimentaire qui clame haut et fort avec l'Europe, formidable, on va baisser d'un tiers le sucre dans les céréales pour le petit déjeuner, dont un bol de céréales de petit déjeuner, il y a plus de deux fois les besoins quotidiens d'un enfant pour son bol de céréales. Donc, on est des opérations marketing, mais où nos autorités politiques sont ennuyées, puisqu'il y a des industries qui ramènent également de l'argent, dont certaines sur la Riviera, mais il y a tous les headquarters qui sont à Lausanne, les headquarters du tabac, juste trois à Lausanne. C'est compliqué quand il faut expliquer que c'est paradoxal de vouloir être une ville saine et promotrice de santé avec tout le côté sport qu'on promeut, puis qu'en même temps, on héberge des filiales internationales qui sont venues se parquer là pour différentes raisons sur lesquelles je ne rentrerai pas. Peut-être encore un élément, parce que c'en est un qui me tient très très à cœur et dans lequel vous pouvez faire un élément sur l'activité physique. En général, dans la phrase qui suit, si pas dans la même phrase, quand on parle de l'activité physique, on enchaîne avec le mot sport. C'est une barrière mentale majeure. Barrière mentale majeure. N'utilisez pas le terme sport pour vous parler à la population. Parlez d'une activité physique à leur portée. Beaucoup de gens disent, le sport, c'est pas pour moi. Je peux pas, j'arrive pas. C'est trop loin. Alors que ce dont on parle, c'est une balade de un quart d'heure, deux fois, trois fois dans la journée ou dans la semaine, ou peut-être une marche de deux heures si on s'en fit. Mais souvent dans notre propos en termes de promotion de la santé, et peut-être dans les relais que vous avez, on a tendance à utiliser un vocabulaire qui fait peur. Et face à la peur, le plus simple, c'est de s'en distancer et dire « c'est pas moi ».
Catherine Moulin-Rod, quand on entend effectivement que la communication ne suffit pas toujours, que certaines personnes ne changeront pas leurs habitudes, quel que soit le message qu'ils reçoivent, est-ce qu'il est nécessaire des fois d'imposer, que ces synergies soient imposées top to bottom, et puis que finalement, on décide de changer, de créer des pistes labs, d'influer sur la santé publique et sur la santé individuelle et l'environnement en même temps?
Alors, ce n'est pas notre stratégie d'imposer quelles que soient les mesures, c'est plutôt d'essayer de développer des démarches, des projets participatifs, parce qu'on sait que c'est aussi l'adhésion en fait, à ces projets-là sera certainement plus importante. Mais j'ai aussi envie de vous dire, c'est notre expérience, c'est que nous, on a la volonté du politique de s'engager dans ce programme Commune en Santé. Je crois qu'il y a trois cas de figure. Il y a quatre figures du politique qui doit faire face à des problèmes d'insécurité, ou dans sa commune, et puis qui ne sait pas trop comment les gérer. Donc en fait, il se dit que c'est peut-être une opportunité d'entrer dans la commune en santé pour pouvoir apaiser un petit peu les tensions qu'il peut y avoir, que ce soit lié à un flux migratoire, que ça peut lier à des problèmes d'accessibilité de la part des jeunes, etc., dépradation du matériel public, etc. L'autre cas de figure, c'est de la commune qu'on peut avoir, c'est une commune qui a envie de redorer un peu son image, qui a soit été un petit peu terni, qui a développé par exemple une grande zone commerciale et puis qui souhaite être identifié un petit peu différemment que uniquement par l'accessibilité à cette zone commerciale. Puis l'autre, la dernière catégorie des communes qu'on a, c'est des communes qui ont envie de gérer le développement démographique de leur commune. On a des toutes petites communes qui doivent un peu défendre en fait la qualité de vie et le bien-être qu'on a de vivre dans certaines communes qui sont un petit peu plus isolées, un petit peu moins pratiques. Donc ça, c'est trois types même de demandes qui peuvent un peu à un moment donné motiver une commune à adhérer au programme Commune en Santé. Puis ensuite, nous, on leur demande. Au départ, c'est ça qui, un petit peu, qui les embête. On leur demande d'être actifs dans six domaines. Je ne les ai peut-être pas précisés, ces six domaines, mais on leur demande d'être actifs au niveau de l'économie, du commerce. Donc, ça veut dire qu'est-ce que vous faites pour que les entreprises de votre région soient aussi des entreprises qui encouragent à la promotion de la santé. Déjà, vous, en tant qu'autorité communale, qu'est-ce que vous faites pour la santé de vos propres collaborateurs? On parlait avant peut-être des gens qui travaillent au bord des routes, etc. Donc, il y a plein de mesures. On leur demande d'être actifs au niveau de l'école. Qu'est-ce que vous faites dans le cadre de vos écoles pour favoriser la promotion de la santé des écoliers. On leur demande d'être actifs au niveau de la thématique, l'animation et des fêtes. Qu'est-ce que vous mettez en place pour favoriser les échanges, l'interculturalité au niveau de vos citoyens? Qu'est-ce que vous faites au niveau de la santé des familles, de la solidarité des aînés? Qu'est-ce que vous faites au niveau de l'urbanisme, enfin des espaces publics? Est-ce que vous avez aménagé des espaces qui sont des signaux d'encouragement à la pratique de saines habitudes de vie? Et puis, qu'est-ce que vous faites au niveau des politiques communales? Quelles décisions vous avez marquées pour instaurer un petit peu une définition de la politique de la santé?
Mais au-delà de la question, comment on peut les inciter ou les forcer? Est-ce qu'il y a des... Voilà, est-ce
qu'on... Alors, nous, on attend qu'ils demandent.
On attend que ça arrive et ça ne vient pas, en fait.
Alors, les demandes arrivent. Après, le problème qu'il y a, c'est qu'il faut toujours avoir les moyens de suivre aussi. On n'est pas plus insistant que tant, parce qu'on n'a pas non plus que tant de ressources pour accompagner ces communes.
Et quand on entend, par exemple, ce matin, je ne sais pas si vous avez écouté la première, Dominique Bourg parlait effectivement de la notion d'état d'urgence hein, pour l'environnement qui n'existe pas, alors qu'on sait que l'état d'urgence a été mis en place en France avec les attentats, effectivement des mesures radicales ont été prises et que ça manque effectivement aussi dans le domaine de l'environnement, cette notion d'état d'urgence, pour que l'on puisse agir aussi top to bottom. Quoi. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on doit aussi explorer?
Moi, j'avais juste deux éléments de réponse à deux questions qui ont été posées récemment, donc la question top-bottom ou bottom-up. Non seulement les initiatives viennent du top-bottom, mais aussi du bottom-up, mais elles doivent venir dans les deux sens. Non seulement parce que la population, malgré toute sa bonne volonté, ne peut pas forcément toujours agir sur des actions telles que la construction de pistes cyclables, l'aménagement du territoire, c'est nécessairement ou la plupart du temps des décisions politiques, donc il faut que ça vienne top-down, mais toute décision politique, si elle n'est pas suivie et comprise et acceptée par la population, elle va rarement être mise en œuvre. Donc je pense que les deux sont absolument nécessaires. Maintenant, pour revenir à votre question sur concrètement les synergies en développement durable et santé et promotion de la santé, et comment interagir, comment renforcer les synergies, moi, il y a une expérience intéressante que j'ai fait récemment et qu'on essaie justement d'utiliser. Il faut savoir, pour convaincre les politiciens, il y a peut-être deux arguments qui fonctionnent. C'est leur visibilité, puis la deuxième, c'est l'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Et c'est une des forces qu'on a peut-être dans le domaine de la santé, c'est qu'on a des chiffres très précis en termes de coût de la santé. Et dans certains cas très précis en termes d'économie qu'on peut faire en favorisant des mesures de promotion de la santé qui contribuent aussi directement ou indirectement au développement durable. Je vous donne un exemple concret. La dépression en Suisse est estimée, les coûts liés à la dépression en Suisse, à 10 milliards de francs par an. C'est les coûts directs liés à la prise en soin et les coûts indirects liés à la souffrance, à la perte de productivité chez les travailleurs, etc. À Genève, il y a à peu près 23% de la population qui, au jour d'aujourd'hui, ont des symptômes légers ou moyens de dépression. Ces 10 milliards de francs par an, ça correspond à 1300 francs par personne par an, pas par personne atteinte, par personne par an. Si on multiplie bêtement par une règle de 3 avec la population genevoise, on arrive à peu près 600 millions par an de coûts sociétaux liés à la dépression. Et ça, moi, c'est des chiffres que j'ai présentés devant la commission de la santé quand on devait défendre la commission de la santé du Grand Conseil du canton de Genève, quand on devait présenter un rapport intermédiaire sur notre plan cantonal. Et ça, moi, je voyais les députés qui étaient écarquillés par ce chiffre et qui l'ont repris ensuite dans la discussion en disant, voilà, si on arrive par un aménagement du territoire adapté, présence d'espaces verts, zones de loisirs, zones de cohésion sociale, etc. Si on arrive, ne serait-ce que de réduire cette prévalence de la dépression que d'un pour cent, hein, c'est pas très ambitieux, un pour cent, on peut faire facilement mieux, ben c'est déjà 6 millions d'économies par an au niveau sociétal. Et ça, pour moi, c'est des arguments politiques, des arguments financiers qui peuvent clairement contribuer à la défense de nos priorités. Et je pense que c'est clairement une valeur ajoutée que la santé peut apporter à la thématique du développement durable, qui est parfois un peu difficile à voir sur le long terme en disant oui, protéger l'environnement, on ne voit pas forcément un impact, un bénéfice direct, là c'est des impacts chiffrés et c'est aussi la thématique de la santé porteuse parce que je connais plusieurs personnes qui selon quoi s'en fichent que les arbres soient coupés, que tout soit bétonné, mais je connais peu de personnes qui s'en fichent de leur propre santé et de la santé de leur enfant. Quand on leur dit si on continue comme ça, voilà, votre espérance de vie en bonne santé va se réduire, vos enfants seront obèses, vous-même risquez de faire un infarctus de manière prématurée à cause de la pollution de l'air, de manque d'activité physique. Il y a très peu de personnes qui osent dire ou qui pensent « je m'en fiche ». Et ça, je pense que c'est un argument extrêmement important.
Oui, peut-être je voulais préciser aussi qu'effectivement, l'élément enfant et santé, en tout cas pour moi qui travaille dans le développement durable, j'ai vu là deux éléments assez intéressants pour convaincre l'administration politique de s'impliquer. Sur la question de l'enfant, c'est vrai que c'est assez intéressant parce qu'il y a, évidemment, il y a un adage qui dit que la qualité d'une société, elle se mesure à sa capacité à préserver les plus faibles d'entre eux. Et puis, je reviens sur ce que Marcos V vous disiez sur dire, mais si on construisait les villes à l'échelle du piéton, mais j'ai envie de dire, si on construit la ville à l'échelle de l'enfant, dans le fond, il y a peu de problématiques qui nous échappent. Et c'est quelque chose d'assez simple maintenant, comme on discute avec. Parce que, effectivement, vous l'avez dit, la ville de Genève, elle a lancé un plan enfance autour de la question des droits de l'enfant. Mais ce qui est très intéressant, moi, j'ai observé ça un peu de loin, la rapidité avec laquelle tous les départements se sont mis dans le groupe de travail, j'ai rarement vu ça dans les domaines que nous, on essaie de faire avancer. Parce que, dans le fond, c'est quelque chose d'ultra simple et compréhensible, simplement de dire construire aujourd'hui ou faire aujourd'hui. Pour nos enfants, évidemment, c'est indiscutable. Il n'y a personne qui dit non, mais moi, je n'ai pas du tout envie de laisser une société en bon état pour les enfants. Ça, c'est indiscutable en termes de valeur. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est aussi opérant en termes d'outils. Parce que dès le moment où on commence à dire est-ce que ça marche sur l'humain qui est l'enfant, vraisemblablement, ça marche relativement bien pour toutes les autres exclusions, que ce soit les personnes âgées, que ce soit toutes les multiples discriminations. Donc ça, je trouve que c'est une manière assez intéressante en termes d'outils de dire prenons l'axe droits de l'enfant, droits humains sur l'enfant pour pouvoir, dans le fond, développer une politique de développement durable et probablement de prévention de la santé. L'autre élément, c'est qu'évidemment, c'est plus facile de dire que ça touche sur la santé des humains que sur la santé de l'environnement. Et du coup, moi, j'ai plutôt tendance à dire qu'on utilise la question de la santé pour essayer de faire passer des mesures de protection de l'environnement. Ça, c'est évident, hein, mais depuis tout le temps. Et puis, il y a peut-être une troisième chose sur laquelle, alors là, moi, j'ai un vrai souci de comment on peut faire, c'est qu'on se rend compte que au titre de l'environnement, au titre de la préservation de la santé et au titre de la gestion des risques, on est devenu de plus en plus régulateur et normatif. Je vous prends un exemple. Aujourd'hui, à Genève, il est quasiment plus possible d'organiser une fête citoyenne dans l'espace urbain. Pourquoi ? Parce que concept de prévention des risques, grosso modo, toute fête qui peut avoir sur l'espace public plus de 1000 personnes sur un week-end doit, 60 jours avant, produire un concept sanitaire, un concept de gestion des risques. C'est issu de toutes les réformes qu'il y a sur environnement, sécurité urbaine. Mais en même temps, est-ce qu'on a un moment où j'entends bien l'enjeu sur la préservation des risques possibles de santé type alcoolisme, tabagisme, drogue, etc. Alors, évidemment, concept sécurité, c'est pour des fêtes où potentiellement il y a de la musique amplifiée et qui plus est un public cible de 18 à 35 ans. Bon, je vous la passe rapidement. Est-ce qu'on s'est posé cette question de dire, ok, ça c'est juste en termes de santé publique, mais quels sont les effets négatifs sur l'apprentissage de la citoyenneté ? Parce qu'aujourd'hui, des espaces de liberté, même légèrement encadrés par les autorités ou par des comités de bénévoles, qui permettent quelque chose d'assez important pour la démocratie, c'est ce qu'on appelle le conflit négocié, qui est cette fameuse chose de la politesse des villes. Aujourd'hui, c'est plus possible. Ça veut dire qu'on construit quand même. Et ça, je rejoins bien la question de la responsabilité individuelle. C'est vraiment le truc qu'on dit, c'est la responsabilité individuelle. Mais il n'y a plus d'espace pour l'apprendre, cette responsabilité-là. Parce que la responsabilité individuelle ne s'apprend que parce qu'on est capable, à un moment donné, de faire l'expérience de cette responsabilité. CF, l'enfant qui va de plus en plus loin, responsabilité autonomie. Et puis, dans le collectif ou dans le faire ensemble, c'est régime, bon, régime festif, régime culturel, régime de manifestation, qui permettent, le temps d'un week-end, le temps d'une manifestation, de s'approprier l'espace urbain et de se dire, il n'y a pas besoin de mettre des flics à chaque portail. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir négocier un conflit qui s'opère sur un espace public. Et ça, aujourd'hui, c'est plus possible, quasiment plus possible. Donc c'est quand même assez compliqué parce que si on estime que les impulsions doivent venir du bottom-up, bah le bottom-up, il est complètement à plat aujourd'hui. Il y a ces espaces-là, au mieux, on a un processus participatif encadré. Mais il n'y a plus ces espaces d'appropriation de la citoyenneté participative.
Voilà, donc ça, au niveau de la santé, je ne sais pas si vous, vous le percevez, puisque vous êtes plutôt les producteurs des normes contraignantes. Donc, comme le développement durable, c'est assez compliqué.
Je vous réponds volontiers, ouais. parce que donc, vous avez parlé de la nouvelle RDDHD, hein, sur la restauration des budgets.
Je ne sais pas vous dire la chronique, c'est trop compliqué.
Voilà, alors je ne dirai pas non plus, mais c'est vrai qu'effectivement, c'est nous qui sommes en charge de la prévalidation de ce concept de réduction des risques. Moi, je vous retourne juste la question dans l'autre sens. Hein. Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas et qu'il y a des morts? Je vous donne un exemple. En Allemagne, il y a une année ou il y a deux ans, il y a eu un mouvement de foule dans une manifestation où il y a, je pense, une vingtaine de jeunes, je ne sais plus les chiffres exactement, qui ont été piétinés, qui sont morts. C'était dû à un problème notamment d'alcool. Il y a eu aussi un mouvement de foule à cause de la présence de policiers. C'était très complexe. Mais qu'est-ce qui se passe si ça ne se passe pas? Et je ne sais pas si vous avez... Enfin, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de concept de prévention des risques et qu'il y a des décès, des viols, des overdoses, des accidents de la route, etc. Et il y a un moment ou un autre, il faut trouver un compromis entre la liberté individuelle, le droit de faire tout ce qu'on veut, et puis peut-être les responsabilités tout de même de l'État de protéger un certain nombre de personnes vulnérables. Et si vous regardez l'histoire, cette fameux piétinement là en Allemagne, c'était jugé récemment et aucune responsabilité n'a pu être déterminée de manière particulière. Donc ce qui veut dire que notamment, j'en parlais récemment avec quelqu'un qui connaît bien le dossier, il n'y a notamment aucune possibilité d'avoir des assurances. Vu qu'il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas d'assurance. Donc les personnes qui ont perdu leur frère, leur sœur, leur père, je n'ai pas le détail, c'est débrouillez-vous. Et là, je pense quand même qu'il y a une responsabilité de la part de l'État de mettre des règles pour pouvoir, alors le but n'est pas interdire, mais c'est peut-être d'orienter, d'encadrer. Et en tout cas, le but, ça je peux vous le dire, le but de la Direction générale de la Santé n'est pas d'interdire ces manifestations. D'ailleurs, le concept de réduction des risques à partir de 1500 personnes, c'est basé sur une analyse des risques, hein, présence de jeunes, risque d'alcoolisation aiguë, risque de consommation de drogue, etc. Et le but n'est pas d'interdire, mais le but, c'est vraiment de protéger notamment les enfants et les jeunes de ces risques-là. Et c'est une loi qui vient de rentrer en vigueur en 2016. Donc, je pense qu'il y a tout un travail de concertation à faire entre les autorités, les organisateurs, pour, sur la moyen terme, trouver une manière de fonctionner qui puisse
satisfaire la chèvre, c'est quoi? C'est la chèvre et le chou.
Donc, ménager la chèvre et le chou, c'est non seulement la liberté des organisateurs, mais aussi la responsabilité de protection de l'État.
Ce que j'entends, c'est assez intéressant, c'est finalement peut-être l'impression qu'il y a un traitement différent, en fait, en fonction des deux domaines. Un domaine absolument... je veux dire, que tout le monde comprend comme étant important, à savoir la santé individuelle, la santé de chacun, et puis quelque part, peut-être ce parent pauvre qui est l'environnement ou l'ensemble, c'est plus difficile, parce que pour revenir sur le cadre normatif, mais une loi qui, par exemple, n'existe pas, alors que beaucoup veulent qu'elle passe, à savoir sur le littering, par exemple, c'est une problématique qui n'arrive pas à passer la moindre rampe légale, alors qu'effectivement, de l'autre côté, il y a peut-être des excès qui sont dénoncés par d'autres. Est-ce qu'il y a peut-être encore un regard un peu, pas en chien de faïence, ça serait peut-être trop fort, entre ces deux mondes, l'un qui tire peut-être la couverture vers lui, qui est celui de la promotion de la santé individuelle, et quelque part, le monde du développement durable, parfois un peu jaloux, avec l'impression d'être un peu des fois laissé pour compte.
Bon, je ne vais pas partir sur le laisser pour compte, mais j'ai en tête toujours cette question de la synergie, parce que c'était la chose dont on avait envie de parler quand on a organisé.
C'est pas le
débat. Mais je vais revenir. La question des synergies, dans le fond, moi, je prends avec de M. Vine, il faut vous asseoir autour d'une table. Ouais. D'accord. Ça, c'est ce que je prends avec.
Autour d'un projet
concret, il faut vous asseoir ensemble. Mais est-ce qu'on invite le développement durable? Je ne suis pas sûre. L'autre question, c'est, on fait un conseil promotion santé et tout, alors dans le canton de Fribourg, je suis responsable développement durable du canton de Fribourg, je participe à la commission qui prépare la nouvelle stratégie promotion santé, d'accord, être intégré dans les structures, ça je prends avec. Moi, ce qui me pose aussi la question, c'est ce label commune en santé. Quand j'ai été invitée par vos spécialistes promotion santé, j'ai présenté notre portefeuille développement durable pour les communes. Et je constate que nous avons exactement, je dirais, à trois quarts de ce qu'on fait pour le développement durable, c'est la même chose que vous. Alors nous, on vient d'avoir notre assemblée générale, on se dit qu'est-ce qu'on fait? Il y a le label cité d'énergie, c'est tout orienté énergie, mais par exemple, on a la promotion de la mobilité douce. Hein. On a le label commune en santé, où vous avez trois quarts des actions qui sont les mêmes que nous, cohésion sociale, fête des voisins, mobilité douce, place de jeu pour les enfants avec de l'eau, alimentation durable. On a tout la même chose et pourtant, si nous on veut être perceptible, on va devoir peut-être un jour passer aussi à un label parce que sinon on nous dit vous êtes abstrait, on ne comprend pas ce que vous faites. C'est quelque chose qu'on nous dit souvent. Donc comment, par exemple, face aux communes, comment travailler avec ces labels, arrêter d'avoir trois types de labels si nous on lance le nôtre, mais donc vont faire la même chose. Comment soigner ces synergies? C'est ça ma question.
Enfin, on a du travail à faire. C'est des soucis, j'ai envie de dire, de riches. Même si on n'a pas beaucoup de moyens et qu'il en faudrait plus. Mais en fin de compte, on travaille sur des domaines qui sont similaires, avec des concepts qui sont parfois proches, parfois pas si proches, parce que je reste toujours avec... moi, j'aimerais savoir ce qu'on mettait dans le développement durable. On n'arrivera peut-être pas à le débattre là, mais je pense que c'est intéressant une fois de s'asseoir, et je parle volontiers après avec quelques personnes, parce que je pense qu'on n'a pas les mêmes représentations derrière ces mots-là. Et je pense que le cadre qui est donné au niveau international, au niveau national... Qui moi m'a fait beaucoup réagir. Il y a 5 ans, quand il y a eu une consultation avant la fusion des deux, de la FED et de la FEI, moi j'ai vécu ça comme, ah ça y est, c'est le développement durable qui va dire à la santé comment on va faire. J'avais juste rien compris. D'accord ? Et puis, il se trouve que j'ai pu passer du temps en organisant ce congrès pour comprendre ce que c'était les objectifs du développement durable dans une autre acception. Et la stratégie aujourd'hui, nous on a encore besoin de la travailler. Et je pense que vous avez besoin de la travailler, vous l'avez vu, vous, avec les yeux, définition environnement, et votre mandat principal. Mais si on le prend de manière générale, il y a un volet qui est clairement consacré à la santé, sur les maladies transmissibles. Alors, on retrouve les points communs, c'est pour ça que depuis le début, on parle de mobilité, parce que c'est un des points évidents. Mais il y en a d'autres sur lesquels on doit pouvoir travailler. Et je pense qu'il y en a d'autres, qualité de l'air, qui est l'autre qu'on a évoqué. Mais il y en a plusieurs autres sur lesquels on doit pouvoir travailler. Et je pense qu'il y a le niveau cantonal, où il y a des synergies qui doivent pouvoir se faire déjà, s'entendre, se comprendre, savoir sur quoi l'autre travaille. Et puis au niveau local, trouver des partenaires. Et je pense que ceux qui travaillent dans les villes, par exemple, doivent identifier des acteurs de la santé intéressés par ces questions, par les débats de société et par les débats, sociaux. Parce que toute une partie, et je suis très content que Genève l'ait intégré comme un des éléments, enfin, les déterminants sociaux, ils sont connus depuis le milieu du 19e siècle. Hein. On n'a pas inventé grand-chose. Hein. Il faut avoir à manger, un toit, et puis juste gagner suffisamment pour se nourrir. Et puis, en fait, c'est les valeurs de la société qui évoluent, qui se mettent en tension. Et oui, on est en tension sur l'histoire des normes, mais on l'est dans plein de domaines. Et ça réagit très fort. Enfin, je parcourais un des journaux ce matin... l'argent pour les routes, on veut avoir ce qu'on veut au niveau fédéral, etc. Donc on voit qu'il y a des intérêts divers. Et ce qu'on doit, c'est trouver le plus petit dénominateur commun pour pouvoir avancer, pour offrir un environnement le plus favorable. Et puis, je pense qu'au niveau local, on peut le faire sur des projets concrets, qu'au niveau cantonal, on peut le faire en étant en partenariat avec les autres interlocuteurs. Et c'est un travail, parce qu'il ne faut pas seulement convaincre les collègues qui sont là. Hein. Il y a Mme Keller... je ne sais pas où elle est assise. Voilà, on se voit régulièrement, on se parle régulièrement, mais nos chefs en dessus, si on disait qu'il faut qu'on mette une séance 3 fois par an pour parler de projets concrets qu'on veut faire ensemble, on va nous dire non, vous avez autre chose à faire, ce n'est pas le cœur de mission, etc. Donc, il faut faire quand même, même si les contextes n'est pas favorable. Et puis, je pense que le troisième, c'est à travers des moments d'échange comme celui-ci qu'on arrive à partager, à se parler, mais peut-être à travers des ateliers aussi à décortiquer, enfin, si on prenait un ou l'autre des axes stratégiques, puis de dire, mais ok, pour la Suisse romande, comment est-ce qu'on traduit ça, nous, dans nos réalités? Parce que ça reste encore très vaste, hein, au niveau fédéral, mais comment on le traduit dans nos cantons réciproques, et où sont les synergies possibles? Et ça, c'est juste en étant un après-midi ensemble, on travaille, et puis on regarde, ok, quelles synergies sont possibles, quels sont les projets qu'on connaît. Alors, sur vous, on a eu la chance de participer ensemble à un immense... état des lieux sur les actions en promotion de la santé il y a 4 ans maintenant, merci. Donc on a déjà une vue d'ensemble, mais il y a plein d'endroits où ils ne l'ont pas. Et cet état des lieux de qu'est-ce qui se fait déjà, à travers le processus que le label Commune en Santé, ben elles le font. Alors est-ce qu'il faut un deuxième label? Est-ce qu'il faut un label développement durable qui inclut la santé dans une acception contemporaine du développement durable? Oui, mais je vous assure qu'aujourd'hui, quand on dit développement durable, les gens ils disent « Ah, les environnementalistes, ça suffit !» Non mais je sais bien, mais dans la perception de nos interlocuteurs professionnels, c'est ça, les gens autour de moi, quand je leur parle de ça, ils disent « Mais pourquoi tu nous parles de la protection des arbres et de l'environnement ?» Je dis « Non, c'est pas ça. On parle des déterminants sociaux, on parle toute une série d'actions, puis c'est en démontrant par le concret en quoi on s'inscrit complètement dans cette logique. Mais c'est normal, on est dans des transitions de modèles conceptuels. Et puis ça, moi je vous dis, c'est 10 ans. Hein. C'est, donc il faut de la patience. Et c'est là où des fois, quand on est soi-même dans l'action, on a envie de voir l'effet tout de suite, et puis il faut prendre une grande respiration, puis se dire, c'est des changements sociétaux, et ça prend à une décennie, je suis optimiste.
Merci. Franz Mathias, Fondation Bayer, architecte. Et effectivement, le départ dirait plutôt du côté de la santé, plutôt que de la santé, je vais essayer de rééquilibrer un petit peu, en passant par la question de l'eau. Justement, si, qui est d'ailleurs l'un des éléments qui joue de manière très intéressante avec les normes, hein, les normes de santé. Je vous rappelle que Genève est l'une des rares villes européennes qui est assez fière de son eau pour l'offrir publiquement par des fontaines, un bel geste public qui crée des espaces publics, qui crée un espace public autour. La question qui se pose, qui a d'ailleurs posée récemment par Jacques Nérinck, c'est pourquoi alors on vend de l'eau en bouteille? Pourquoi l'une des actions les plus simples, les plus directes, les plus manifestes d'une action publique en faveur de développement durable, donc contre le plastique, contre le transport, contre les excès d'une société de consommation qui se veut en même temps démocratique en faisant croire aux gens qui vont se sentir bien parce qu'ils font du fitness? Notre histoire, pourquoi alors il n'y a pas une action massive, par exemple une votation publique contre la vente de bouteilles d'eau? Question.
Comme je suis délégué à l'agenda 21 au siège de Nestlé, et donc aussi Nestlé Water, on a travaillé un peu sur cette question, et je vous assure que c'est très très chaud, entre autres avec les acteurs locaux qui distribuent l'eau, et on avait lancé un projet qui s'appelle l'eau d'ici il y a quelques années pour diffuser donc de l'eau en bouteille dans les cafetiers, chez les cafetiers restaurateurs. Il y a eu un changement de direction au sein de l'entité qui distribue l'eau, et le directeur récemment m'a dit: « Ah, mais vous comprenez, qu'est-ce que Nestlé va penser si on commence à agir sur ce domaine ?» Donc vous voyez la pression évidemment du lobby de l'eau qui gagne de l'argent sur l'eau, elle est très très forte.
C'est une bonne action pour une fête publique, oui. Sans demander l'autorisation par exemple.
Alors on a mis ça en place par exemple, que toutes nos manifestations distribuent l'eau gratuitement aux bénéficiaires des manifestations. Mais disons, je pense que c'est vraiment, là on est vraiment entre un conflit, je dirais, du public, et puis de l'avantage du secteur privé. C'est effectivement très difficile, parce que je pense que pour une ville, bah, typiquement avec le poids de laisser s'agir Vevey, on ne fait pas le poids. Donc on n'arrive pas à faire bouger une montagne comme ici.
Il nous reste quelques minutes. Je vais peut-être redonner la parole à Marcos Veil, hein, par rapport à l'urbanisme. C'est cette différence entre, bah, on entend parler de ces villes du futur, hein, qui sortent de terre dans le désert ou ailleurs, qui mettent en place, voilà, des systèmes assez novateurs en matière de développement durable aussi, mais qui a un impact évident sur la santé individuelle de chacun. Quel est votre regard sur ces villes nouvelles? Et puis cette question finalement que je me pose en disant, ça va être sacrément dur dans une ville déjà existante de tout changer, de tout raser, de tout reconstruire par rapport à toutes les pressions que l'on a entendues, qu'elles soient individuelles, politiques et économiques. Voilà, ce regard entre villes nouvelles et villes existantes, et quel est le terrain de jeu finalement?
Mon terrain de jeu ici en Suisse, c'est les villes de Suisse, et donc les villes du futur, elles sont déjà là. Parce que 90% ou 95% de ce qu'on aura en 2030 ou 2040 est déjà là. On n'aura pas de nouvelles villes en Suisse, on a des nouveaux quartiers de manière, je dirais, très ponctuelle, on a des développements urbains dans lesquels aujourd'hui, avec des labels éco-quartiers, voilà, on met des efforts, des ressources particulières, et je pense qu'on sait faire, et c'est aussi des laboratoires d'expérimentation qui sont intéressants pour tirer des enseignements sur la manière d'agir sur la ville existante. Parce que là, je pense qu'on manque tous de connaissances, de ressources, de moyens, d'instruments adéquats pour agir sur la ville existante. Et c'est là l'enjeu majeur, parce qu'elle est là et parce qu'elle va rester là. Et moi, j'utilise toujours cette notion d'éco-quartier. Ce n'est pas tellement le label qui m'intéresse. Ces questions environnementales, énergie, gestion de l'eau, gestion de terre. On sait le faire, on sait parfaitement bien le faire. C'est la manière, c'est un laboratoire. C'est qu'est-ce qu'on apprend, comment on peut faire la ville autrement avec les habitants, avec les acteurs, avec des politiciens, des économistes, etc. Et ça, je pense que ça peut être un enseignement qui nous permet ensuite d'agir sur la ville existante, parce que l'enjeu, il est vraiment là.
Et très concrètement, quel type de synergie on peut découvrir dans ces laboratoires, dans ces villes comme Mazda ou d'autres, qui peut avoir un impact à la fois sur la santé individuelle et la santé de l'environnement?
Alors, je ne prononcerai pas sur ces grands projets, j'ai l'impression que c'est plus du marketing. Enfin, oui, on cherche à bien faire. Par contre, il y a des projets très, très concrets de développement ici, en Suisse romande, dans l'arc germanique, qui sont vraiment intéressants dans toutes les démarches qui sont mises en œuvre pour construire des nouveaux quartiers de manière un peu différente de celle qu'on a eue jusque pendant ces 50 dernières années. Et je pense à il y a des enseignements à faire, que ce soit au niveau économique, sur la production. Je prends un exemple de locaux avec des loyers qui soient faibles pour pouvoir accueillir des artistes, des artisans. Enfin, toute cette vie locale qu'on cherche à favoriser. Aujourd'hui, dans un quartier normal, vous sortez avec des loyers, des arcades, qui ne permettent pas à un artisan de vivre. Donc, il y a des mécanismes à inventer, et je pense que ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place dans des nouveaux quartiers permet ensuite peut-être d'agir sur les quartiers existants.
Et c'est facile sur ces quartiers existants de détruire et de reconstruire.
C'est beaucoup, beaucoup plus compliqué parce que c'est des espaces qui sont investis, qui sont vécus, sur lesquels il y a une histoire, il y a des identités, il y a une appropriation. Donc il faut agir avec beaucoup, beaucoup plus de délicatesse. C'est beaucoup plus difficile, évidemment, que d'agir sur du neuf. On a un grand champ agricole et puis on pose des bâtiments pour faire ça en plein. Non, ça nécessite un travail beaucoup plus fin. Et là, je pense qu'on est en phase aussi d'apprentissage sur ces processus de renouvellement urbain, comment les mener à bien sur des longues périodes, par petites touches, comment prendre en compte la population existante, parce qu'on va modifier son environnement. Il y a évidemment des fortes résistances. Je pense qu'on est vraiment en phase d'apprentissage. J'ai pas une réponse à vous donner direct, une recette magique, une baguette magique ou une recette pour le faire, mais... C'est un des enjeux majeurs aujourd'hui.
Je voulais juste compléter. Alors, je ne suis pas urbaniste, hein, donc je parle un peu sous votre contrôle, mais je pense qu'en tout cas pour la ville de Genève, la ville est en constante mutation. Et je pense que c'est important de suivre les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé qui préconise la prise en compte des considérations de santé publique dans toutes les politiques publiques, c'est Health in All Policies. Et dans tout projet de développement qui soit financier, qui soit d'aménagement du territoire, de prendre en compte ces aspects-là. Un exemple tout à fait concret, un grand développement de la ville de Genève, de la région d'ailleurs, Franco-Valdo-Genevoise, c'est le développement du fameux SEVA, hein, vous savez, cette grande ceinture ferroviaire qui va faire tout le tour de la ville. On en parlait récemment dans le cadre d'un forum participatif pour développer notre plan d'action promotion de la santé. Alors j'ai cru comprendre que c'est le cas, mais pourquoi pas penser dès le début de la planification de ce SEVA, pourquoi pas recouvrir ce SEVA par une piste cyclable qui formerait une autoroute. Alors en dessous, donc, il y aurait les gens qui seraient dans les trains, qui se déplacent dans cette ceinture ferroviaire, et par-dessus, on fera un endroit réservé pour la mobilité douce. Cyclistes, piétons, etc. Et je crois que c'est en cours de réflexion. Alors, je crois qu'ils n'ont pas construit dès le départ, mais ils planifient de le faire. Et là, c'est des opportunités absolument fantastiques pour changer une ville et prendre une opportunité d'amélioration pour la santé et pour le développement durable.
Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, une dernière question. Si ce n'est pas le cas, je vais vous demander juste un petit mot de conclusion de chacun d'entre vous par rapport à ce que vous avez entendu, par rapport à ce que vous avez dit et par rapport à cette transversalité. Je vous laisse le micro, vous l'avez.
Donc, je tiens le crachoir, effectivement. Je vais le garder. Non, je pense, en tout cas, moi, ma perspective, et c'est quelque chose qu'on vit au jour le jour à Genève, notamment avec une collaboration remarquable avec le service. service cantonal du développement durable, c'est que la thématique de la promotion de la santé et du développement durable ont tout à gagner à travailler ensemble, à développer des synergies. Et c'est quelque chose qui, de notre côté, fonctionne de manière remarquable, notamment parce que le développement durable, en ce qui me concerne, est un concept qui est extrêmement bien intégré dans la perception collective. Hein. Ça fait longtemps qu'on en parle, c'est quelque chose qui est reconnu et sur lequel la santé peut s'appuyer. Et peut-être, à l'inverse, c'est peut-être aussi vrai que le développement durable peut s'appuyer sur des arguments de santé publique qui sont quelque chose d'extrêmement concret, qui touche directement la population et qui ont des implications économiques qui peuvent également influencer les décideurs. Donc à l'avenir, effectivement, il n'y a que du bon à renforcer les synergies entre les deux thématiques qui ont été discutées aujourd'hui.
Moi, je suis très excité, en fait, parce que je trouve qu'on a une chance inouïe, parce qu'il y a, une conjoncture d'éléments qui fait que deux mondes peuvent se rapprocher, qui vont à terme améliorer le quotidien des personnes qui vivent dans des lieux. Puis on a beaucoup parlé des villes, mais je vous assure qu'il y a plein de gens qui vivent aussi dans des villages nettement moins grands. Alors c'est peut-être moins évident dans le canton de Genève, mais chez nous on a beaucoup de contrastes parce que les réalités des problématiques peuvent être très variables. Et je vous rassure, on a une immense diversité dans beaucoup d'endroits sur Vaud aussi. Mais moi je suis surtout très excité parce que c'est aller à la découverte de l'autre, et puis moi c'est ce qui me motive depuis très longtemps.
Pour ma part, j'ai envie de dire que je crois qu'on ne doit pas, surtout pas se mettre en compétition entre développement durable et santé. Je pense qu'on doit vraiment apprendre à travailler ensemble. Et puis moi, j'ai pour principe un peu la politique des petits pas. Je pense qu'il faut trouver des portes de collaboration progressive, aussi se rassurer les uns les autres sur le fait que je pense qu'il faut qu'on mette nos moyens un petit peu ensemble aussi, parce que c'est toujours une question un peu de moyens au final. Hein. Donc, c'est est-ce qu'on a définir peut-être les zones d'intérêt communs où on arriverait à être un petit peu plus efficace.
Monsieur Day, pour vous de la trame, vu que vous avez commencé.
Alors, moi, je voulais d'abord juste rebondir sur ce que vous avez dit à propos des enfants. Par une toute petite anecdote, vous vous souvenez des 4 diapos que j'ai montrés où on voit les enfants, le besoin des déplacements des enfants de pouvoir s'éloigner de leurs parents. Avec ces 4 diapos-là, j'ai réussi à faire arrêter un chantier devant un immeuble où il y avait un parking qui était en construction, parce que tout simplement, effectivement, les gens ont compris qu'ils étaient en train de faire tout faux. Le message a été immédiat. Donc, je voulais juste vraiment rebondir sur ça, parce qu'effectivement, c'est un levier extrêmement puissant qu'on peut utiliser, entre guillemets, de parler du besoin des enfants. Et puis, je conclurai juste pour dire, pour moi, l'intérêt d'introduire la dimension de la santé dans la pratique d'urbanisme, c'est finalement, comme je l'ai dit, de recentrer finalement sur l'individu, et puis peut-être de remettre en perspective la finalité de notre travail, qui est de favoriser ce bien-vivre, ce bien-vivre ensemble, et au travers de cet échange qu'on peut avoir en intégrant toutes les disciplines.
Merci beaucoup. Moi, je conclue rapidement en découvrant effectivement que ces deux mondes qui ont envie de travailler ensemble, où les synergies sont possibles, même s'il y a, malgré l'excitation, des dizaines d'années à attendre.
Que
le travail est en route, et c'est intéressant aussi d'un point de vue de journaliste et de citoyen, tout simplement, et aussi que cette santé dépend à 60% de l'environnement, c'est le chiffre que vous avez évoqué, donc clairement les deux ont un lien, et on est tous... On fait tous partie du même vaisseau, et que finalement des solutions très concrètes existent, comme on l'a entendu de la bouche de monsieur Veil, et que finalement l'argument de vente le plus intéressant, c'est la santé des enfants. Merci beaucoup, et je vous propose de poursuivre ce réseautage et cette discussion avec le repas qui suit.
Merci aussi Christophe d'avoir accepté d'animer ce moment d'échange, et puis on voulait vous remercier toutes et tous par un petit présent de la part de l'association COR21. Donc vous prendrez connaissance, c'est des produits locaux, et je ne sais pas s'ils sont de saison, parce que sinon ils seraient pourris dans le carton, en tout cas conditionnés de manière à ce qu'ils soient locaux. Et merci beaucoup à nos intervenants, et puis merci à toutes celles et ceux qui ont fait le déplacement pour l'Assemblée Générale, aussi la partie statutaire. Donc on vous transmettra, on va plancher sur les 3 thèmes que vous nous avez donnés. Et puis je vais ouvrir les portes et vous pouvez vous suspendre. Voilà. Merci.
Merci.